Merci d'écouter RFI, il est 1h en temps universel, 21h à Ottawa.
Pierre Boudias.
À la une de l'actualité, le Gabon n'est plus dans le viseur de l'Union africaine. L'organisation continentale lève les sanctions qui visaient le pays depuis le putsch d'août 2023. Conséquence de l'élection de Brice Clotaire-Nguema lors de la présidentielle d'avril. Le secteur automobile canadien, première victime de la guerre commerciale des États-Unis, le premier partenaire commercial de Washington, voit ses véhicules imposés à 25%. Dans le bastion automobile de Windsor, certaines usines ferment déjà leurs portes. Reportage dans cette édition. Vers une coalition gouvernementale entre conservateurs et socialistes en Allemagne, les membres du SPD ont validé à une large majorité le projet proposé par Friedrich Merz. Le dirigeant des chrétiens démocrates devrait être nommé chancelier la semaine prochaine. Et puis, pas d'écran avant 6 ans, c'est ce que recommandent plusieurs experts de la santé en France. Téléphones et autres tablettes pourraient altérer durablement les capacités intellectuelles des tout-petits. Le Gabon pleinement de retour au sein du concert des nations africaines, alors que le président Brice Clotaire-Oligui Nguema, arrivé au pouvoir après un coup d'État il y a 19 mois, a été officiellement porté à la tête du pays le mois dernier. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé hier de lever l'ensemble des sanctions imposées au pays au lendemain du coup d'État qui avait entraîné la chute du régime d'Ali Bongo Ondimba. La décision a été prise depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, en présence du ministre gabonais des Affaires étrangères, Herman Imongold, qui s'est empressé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple gabonais, des propos recueillis à la télévision gabonaise par notre correspondant Yves-Laurent Gomard.
C'est qu'avec beaucoup d'honneur, de fierté et d'humilité que j'annonce au peuple gabonais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire-Oligui Nguema, le retour du Gabon au sein de la grande famille africaine. Cette décision de la plus grande importance pour notre pays démontre l'adhésion de l'organisation africaine au processus électoral du 12 avril 2025. En réintégrant l'Union africaine, notre pays sera renoué avec les grands forums internationaux, notamment Union africaine-Corée du Sud, Union africaine-Japon, TICAD, Union africaine-Inde et dans un avenir proche, l'Union africaine et l'Union européenne, puis les ACP à Bruxelles. Je saisis l'occasion pour réitérer nos remerciements à tous les États membres de l'Union africaine, à ceux de la CEAC qui ont accompagné le Gabon avec une bienveillance durant cette période de transition.
Et à noter que Brice Clotaire-Oligui Nguema prêtera serment samedi dans un stade de Libreville. Lui avait officiellement été investi le 20 janvier dernier à Washington. Le président américain Donald Trump, qui célébrait hier ses 100 premiers jours au pouvoir, les 100 plus beaux de l'histoire des États-Unis, selon le principal intéressé. Une date symbolique entachée d'une mauvaise nouvelle sur le plan économique. Une contraction de 0,3% du PIB américain sur un an. La faute à l'administration Biden, pas aux droits de douane imposés aux partenaires commerciaux des États-Unis, selon le locataire de la Maison-Blanche. Une guerre commerciale qui vise notamment le Canada, premier partenaire des États-Unis. La hausse des tarifs douaniers de 25% sur l'acier, l'aluminium et l'automobile a provoqué un véritable choc dans le pays. Cette augmentation a d'ailleurs déjà des répercussions concrètes. À Windsor, la capitale canadienne de l'automobile, ville de 250 000 habitants située en face de Détroit, l'usine Stellantis a fermé ses portes pendant 15 jours. Reportage de notre envoyé spécial Marine de la Moissonnière.
15h30 devant l'usine Stellantis de Windsor, c'est la fin du quart pour Denis Desonniers, 53 ans, 31 ans d'ancienneté. Retour à son poste après 15 jours à la maison.
Oui, je suis bien content de revenir au travail, mais on ne sait pas si on va travailler la semaine prochaine ou la semaine après.
On ne vous a pas prévenu aujourd'hui, on ne vous a rien dit?
Non, ils ne savent pas. De jour à jour, ils ne savent pas parce que M. Trump change son idée tous les jours. C'est pas qu'on est en colère, c'est juste qu'on est bien désappointé parce que c'est nos amis.
Des amis qui nous ont planté un poignard dans le dos, ceux des Olds de Denis Desonniers. Les usines canadiennes et américaines travaillent ensemble depuis des années. Le système de production est interdépendant. Une pièce détachée peut passer jusqu'à 6 fois la frontière avant d'être assemblée sur une voiture. Blaise, 21 ans, le fils de Denis Desonniers, travaille lui aussi à l'usine. Il estime que tout cela n'a aucun sens.
Donald Trump n'arrête pas de dire qu'il veut faire passer l'Amérique d'abord. Mais tout seul, ce n'est pas possible. Il a besoin de partenaires. Mais lui, il veut toujours flouer quelqu'un. Quand il fait du commerce, il ne cherche pas à être juste. Il veut obtenir plus que l'autre. Mais ça ne marche pas comme ça. Avec ses amis, il faut être équitable.
Les deux hommes comptent désormais sur les négociations en vue d'un nouvel accord commercial qui doivent s'ouvrir début mai, même si côté canadien, la confiance est brisée. Marine de la Moissonnière, Windsor, RFI.
Et dans ce contexte, Donald Trump annonce qu'il recevra la semaine prochaine le nouveau Premier ministre canadien, le libéral Mark Carney, qui avait chargé le président américain à l'issue de sa victoire aux législatives lundi. Le président américain accusé par le libéral de vouloir briser et posséder son pays, référence aux volontés du locataire de la Maison-Blanche de faire de son voisin du Nord le 51e État américain. Les États-Unis qui signent avec l'Ukraine un accord sur l'exploitation des minerais rares négocié depuis plusieurs mois. Le texte a été scellé à Washington en présence de la ministre ukrainienne de l'économie, Yulia Sviridenko. Il prévoit le financement par les États-Unis de projets d'extraction de minerais, de pétrole et de gaz. Kiev conservera cependant l'entière propriété et le contrôle de ses ressources et déterminera où forer et quoi extraire, précise le gouvernement ukrainien. RFI, il est 3h06 à Berlin. L'Allemagne, toute proche de retrouver un gouvernement. Le contrat de coalition conclu entre les chrétiens démocrates du futur chancelier Friedrich Merz et ses alliés a été approuvé à une large majorité par les membres du SPD socialiste. Ce dernier doit maintenant être élu chancelier mardi, au lendemain de la signature de cet accord. Pascal Thibault.
L'euphorie n'est pas au rendez-vous. Le futur chancelier Friedrich Merz l'a souligné lundi lors d'un mini-congrès du parti chrétien démocrate qui a adopté le contrat de coalition conclu avec les sociaux-démocrates. À droite, la base a des états d'âme et le parti recule dans les sondages. Le SPD avait, lui, à nouveau consulté ses membres et peut se féliciter que 84% des votants ont approuvé le contrat de coalition. En 2018, un tiers l'avait rejeté. Mais le recul sensible de la participation traduit aussi les états d'âme de la base social-démocrate. Un membre du parti me disait ce matin au téléphone qu'il avait préféré s'abstenir pour ne pas avoir à voter contre le texte. À l'heure où l'extrême droite bat des records historiques dans les sondages, chrétiens et sociaux-démocrates savent que leur mariage de raison doit fonctionner. De nouvelles élections seraient suicidaires. Friedrich Merz, qui sera élu mardi prochain, doit convaincre très vite les Allemands sceptiques. Beaucoup évoquent le gouvernement de la dernière chance et agitent le spectre d'un succès encore plus important de l'extrême droite dans 4 ans. Pascal Thibault, Berlin RFI.
L'Allemagne, qui fait partie des 16 pays prêts à réclamer une dispense des règles budgétaires européennes, Belgique, Pologne ou encore Finlande ont répondu par l'affirmative à la proposition de la Commission européenne d'assouplir le règlement pour leur permettre d'augmenter leurs dépenses militaires. Objectif, atteindre 1,5% du PIB consacré à la défense sans craindre d'être attrapé par le gendarme européen concernant les déficits ou la dette publique. Téléphone, portable, tablette, ordinateur, c'est non avant 6 ans. Alerte lancée en France par plusieurs experts de la santé. 5 sociétés savantes appellent à une prise de conscience collective car les écrans altèrent la santé et les capacités intellectuelles des enfants. Baptiste Coulon.
Ni la technologie de l'écran, ni ses contenus ne sont adaptés à un petit cerveau en développement. Dans leur tribune, médecins et pédiatres disent constater les dégâts provoqués par une exposition des plus jeunes aux écrans. Agnès Linglard est la présidente de la Société française de pédiatrie, signataire du texte.
Sur l'apprentissage, sur le comportement, sur le développement intellectuel, sur le sommeil, sur l'interaction sociale avec les autres, ça a été clairement démontré. Plus on est exposé, plus on a une altération de ces différents domaines.
En France, le rapport des plus jeunes aux écrans est régulièrement l'objet de colloques, d'assises. Dernière en date, les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant organisées par le ministère de la Santé fin 2023. Depuis, peu d'avancées, regrette Agnès Linglard.
Maintenant, il faut mettre en œuvre, il faut mettre en action. En fait, il y a une différence entre l'impact des écrans sur la santé des enfants et finalement des mesures ou des messages qu'on a du mal à faire passer. L'évolution des technologies, l'évolution des portables, l'évolution des contenus est tellement rapide qu'il faut derrière se mettre aussi en marche très rapidement et être capable de réagir.
Agnès Linglard espère désormais que cette tribune trouvera un écho auprès des décideurs politiques.
Baptiste Coulon, et puis elle avait fêté ses 6 ans le 8 juin 1914, la doyenne de l'humanité Ina Canabaro Luca, décédée cette nuit à l'âge plus que vénérable de 116 ans et 326 jours. C'est la congrégation de Porto Alegre où vivait cette nonne brésilienne qui l'a annoncé dans la nuit. Selon le groupe de recherche en gérontologie des États-Unis, c'est désormais l'anglaise Ethel Kafferman, 115 ans et 22 jours, qui détient ce record de longévité. Merci d'écouter RFI, il est presque 1h10 en temps universel. Rendez-vous dans une heure pour un nouveau journal sur l'actualité internationale.